est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Allez, on déroge au rituel. Pas de citation pour ouvrir cette émission, mais un chiffre. 35%. 35% des femmes à travers le monde seront victimes de violences physiques ou sexuelles à un moment de leur vie. 35%, c'est plus d'une femme sur trois. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous parlions de féminisme avec le collectif Georgette Sand, et bien cette semaine, avec mon invité, nous allons parler de droits des femmes à travers le monde, à l'occasion de la Journée internationale de la femme du 8 mars. Mon invité, c'est la présidente d'une ONG qui défend les droits de l'homme, ceux des femmes, et le respect de la Déclaration universelle. Mon invité, c'est la présidente d'Amnesty International France, et elle m'a reçu au siège parisien de l'ONG. Mon invité, c'est Geneviève Garrigos, et ce qu'elle a à nous dire est absolument essentiel. Rencontre. Bonjour Geneviève Garrigos.
Bonjour.
Alors le 8 mars 2016, c'est la Journée internationale de la femme. Alors pour ce qui est de l'essentialisation, journée de la femme et pas journée des femmes, comme s'il y avait un idéal féminin, une seule façon d'être femme, adressez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, à l'Organisation des Nations Unies, puisque c'est en effet l'ONU qui, en 1975, a commencé à célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars, ce qui fut officialisé en 1977, Geneviève Garrigos, c'est important encore aujourd'hui de consacrer une journée aux femmes.
C'est l'occasion de mettre en avant à la fois peut-être les avancées qui ont eu lieu, mais aussi tout ce qui reste à accomplir. Parce que le reste du temps, parler des violations que subissent les femmes, eh bien, c'est souvent passé sous silence. Et là, eh bien, on a de l'espace médiatique, on a des tribunes et on en profite. D'autant que quand on regarde au jour d'aujourd'hui, même si cette journée existe depuis pratiquement 40 ans, on constate avec effroi que si certains droits des femmes ont évolué, si la lutte contre les discriminations, l'égalité progresse, les violations qu'elles subissent, que ce soit depuis les mariages forcés, les viols, les stérilisations forcées, des violences en plus souvent à grande échelle, elles persistent et donc il faut vraiment se mobiliser contre.
Il faut se mobiliser, cette journée c'est l'occasion, le thème de la version 2016 de la Journée internationale des femmes selon l'ONU, c'est la parité en 2030, avancer plus vite vers l'égalité des sexes. Alors 2030, c'est quand même dans 14 ans, on ne peut pas avancer un peu plus vite vers l'égalité des sexes?
On voit que c'est très difficile. Et y a d'ailleurs des chiffres qui montrent que si nous continuons à évoluer comme nous l'avons fait ces dernières années, il faudra attendre encore 120 ans pour arriver à la parité, à l'égalité homme-femme.
Ah oui, 120 ans, oui.
Donc, au regard de cela, on peut se dire, 30 ans, c'est ambitieux. Ce qui est très difficile, il faut bien le voir, et régulièrement, d'ailleurs, on le constate, quand il y a des évolutions en termes de droit, en termes de loi, il y a des campagnes qui sont suivies derrière pour justement informer le public, etc. Et puis, rien ne se passe. Donc, entre faire adopter des lois, faire savoir et changer les mentalités, ça prend du temps. C'est peut-être le plus dur.
Alors, dans cette émission, et on a commencé à le comprendre, je le dis, pour nos auditrices, pour nos auditeurs, on va quand même parler de choses pas jolies jolies. Viol, violence, meurtre, mutilation. Alors, j'avais envie de commencer en parlant d'éléments positifs, d'endroits de la planète où peut-être le droit des femmes progresse. Et bien sûr, je vais vous poser la question tarte à la crème, Geneviève Garrigos, une question à propos de l'Arabie Saoudite, parce que les médias du monde entier en ont parlé. L'Arabie Saoudite a en effet accordé le droit de vote et d'éligibilité dans des élections municipales. C'est une bonne chose, ça?
C'est un symbole. Mais il faut voir ce que ça recouvre derrière comme réalité. Parce que tout le monde s'en est félicité, bien évidemment, c'était la première fois. Mais il faut savoir que sur les plus de 2100 conseillers justement qui ont été élus,
Je
dirais même, étaient des femmes, c'est-à-dire 1%. Et pour une des raisons très simples de toute façon, c'est que les femmes n'avaient pas le droit de faire campagne devant des hommes. C'est le bon exemple de, on fait des choses, on montre et on communique dessus parce que ça fait bien, mais derrière, qu'en est-il exactement ?
Il faut voir la réalité derrière le symbole. Alors, quand on dit pays ou région du monde où le droit des femmes progresse, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Geneviève Garrigós?
Paradoxalement, c'est par exemple au Maghreb qu'on voit des progressions, parce que notamment l'année dernière, là encore, en Algérie, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée et qui reconnaît des questions de violence, qui rend le harcèlement et les violences, qui les fait rentrer dans le droit pénal. Par contre, on s'aperçoit que le fait que lorsque la victime de viol était une mineure, donc moins de 18 ans, son agresseur, il peut continuer à l'épouser pour ne pas être poursuivi. Alors ça, c'est... Voilà. Donc, on avance par petits pas. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la mobilisation des femmes. Elles sont engagées de plus en plus. Ce qu'on disait il y a quelques années, 10, 20, 30 ans, on parlait toujours des hommes qui prenaient des risques pour leur vie, pour défendre les droits humains, etc. On voit que les femmes sont aujourd'hui d'une combativité énorme. Partout dans le monde, il y a des associations avec des femmes qui sont engagées à tous les niveaux des droits, pas uniquement pour leurs droits, mais pour lutter contre l'injustice, pour lutter contre l'arbitraire, la pauvreté, pour l'environnement, etc. Donc, elles ont pris une place et on sort d'ailleurs complètement de cette notion de la femme faible. Les femmes restent vulnérables d'une part parce que économiquement, c'est souvent celles qui ont les situations les plus précaires, celles qui font le moins d'études, c'est celles aussi qui se retrouvent très souvent élevées seules leurs enfants, etc. Mais c'est ce qu'on considère être une vulnérabilité et pour lesquelles il faudrait prendre des mesures nécessaires, leur donne aussi en parallèle une force extraordinaire. Et c'est peut-être ça que j'ai plus envie de soulever et souligner aujourd'hui.
La force des femmes à travers le monde, leur engagement, leur combativité, voilà du positif pour commencer cette émission qu'il sera peut-être moins, parce que dans le rapport annuel d'Amnesty International publié le 24 février dernier, on constate surtout que la violence dont les femmes sont victimes, elle est très importante dans de très nombreuses régions, Afrique du Nord, Asie, Moyen-Orient, mais aussi Amérique du Nord au Sud. Et du côté des États-Unis, moi, il y a un chiffre qui m'a étonné, 2,5. Les femmes amérindiennes et les femmes autochtones en Alaska courent 2,5 fois plus de risques d'être victimes d'un viol ou d'une agression sexuelle. La violence, Geneviève Garrigós, contre les femmes, elle va souvent de pair avec le racisme.
Elle va de pair avec tout ce qui est lié à une forme de pouvoir. Donc ça va être le racisme, ça va être aussi, bien sûr, le sexisme, il faut dire, ce sont des femmes. Donc c'est, plus les personnes sont vulnérables, plus elles sont jeunes aussi. Plus elles sont à la merci de ceux, entre guillemets, mais plus elles sont à la merci de ceux qui vont commettre ces actes-là. Or, il est évident que les femmes amérindiennes, dans cette culture qui a été d'ailleurs de conquête des Amériques, etc., eh bien, elles sont en première ligne des victimes. Et souvent, on oublie d'ailleurs que, on a toujours l'impression que la question des violences, elle est ailleurs, ce sont d'autres cultures, ce sont d'autres milieux, ce sont d'autres religions. Elle est partout. Et un fait qui est très important dans la question des Amérindiennes, c'est que généralement les femmes sont plutôt, en tout cas aux États-Unis, plutôt violées par des personnes du même groupe ethnique qu'elles. Dans le cas des Amérindiennes, le taux de violence sexuelle part des Caucasiens est quand même très élevée. Et c'est toute la question de la loi, de son application et de la punité. C'est-à-dire que, encore une fois, quand c'est une femme issue d'une minorité, quand c'est une femme qui était plutôt pauvre, qui est considérée plutôt vulnérable, qui va se soucier d'elle? Parce que finalement, si les femmes sont victimes de viols, si elles sont victimes de violences sexuelles, c'est parce que c'est leur faute, non?
Et tout le monde est victime, vous l'avez dit. Ça ne concerne pas que la culture d'à côté, le pays d'à côté. Il y a des chiffres. En 2014, l'Organisation mondiale de la santé rappelait que près de 35% des femmes dans le monde entier sont exposées à un moment de leur vie à une forme de violence physique et ou sexuelle. 35%, c'est plus d'un tiers de toutes les femmes du monde. En France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Dans le monde entier, 7% des femmes seront victimes d'un viol au cours de leur vie. Et selon la Banque mondiale, le risque de violence conjugale et de viol est plus fort pour les femmes de 15 à 44 ans que le risque de cancer, d'accident de la route, de guerre et de paludisme réunis. Ces chiffres, ils sont terribles, Geneviève Garrigos. Surtout que dans la plupart des cas, et c'est ce que souligne Amnesty International, ça va pas dans le bon sens, c'est en augmentation.
Absolument, parce que on le voit bien là aussi, c'est que déjà il y a toutes les situations de conflit où les femmes sont souvent une des premières cibles pour une raison très simple, c'est que les violences sexuelles, les agressions sexuelles, le viol, et depuis 2001 avec le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, ça a été reconnu pour la première fois à la fois comme une torture. Et à la fois comme, en l'occurrence, puisque c'était des viols de masse, comme un crime contre l'humanité. Et depuis 2008, les Nations Unies l'ont reconnu comme une technique de guerre, ce qu'on appelle une arme de guerre. Pourquoi ? Parce que le viol détruit la personne, mais il détruit, à travers les femmes, il détruit la société. Il y a cette situation, il y a la question... des femmes migrantes, des femmes réfugiées. On est en train de parler de la plus grave crise humanitaire en termes de personnes déplacées, 60 millions dans le monde, plus de 20 millions de réfugiés, mais aussi les flux migratoires. Et qu'est-ce que l'on constate ? C'est que ce soit les femmes qui traversent le Mexique en provenance d'Amérique centrale pour essayer d'aller vers les États-Unis, ou les femmes qui arrivent avec les réfugiés par la Méditerranée, pendant leur parcours, les risques de violences sexuelles, les risques de viol, les risques, même y compris de mariage forcé, etc., de traite des êtres humains, sont très élevés. Donc, on voit bien cette augmentation de la violence. Et dans nos sociétés elles-mêmes, parce que on parle du nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, ou de leur partenaire, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette violence, en France, les chiffres, c'est des estimations, parce que peu de femmes portent plainte, on estime qu'il y a...
16%.
C'est 200 000 femmes par an qui seraient violées. Vous mettez ça bout à bout. Après, on parle des 200 000 femmes qui ont été violées pendant le conflit en RDC. Tout à fait, ouais. On parle des femmes violées. Mais 200 000 femmes en France.
Et seulement en France, 16% des femmes qui portent plainte. Donc,
voilà, c'est ça. Et ce qui est très grave aussi, c'est qu'on s'aperçoit que les violeurs sont principalement dans la sphère familiale. C'est-à-dire qu'on a toujours l'image que c'est à l'extérieur que la femme risque. Court un danger. Or, les femmes sont vraiment menacées à l'intérieur.
Est-ce qu'il y a une culture du viol ?
C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Elle est liée au fait, c'est de la banalisation du viol. C'est-à-dire que, effectivement, il y a dans les discours, dans la façon de voir. Là, y a une étude vient de sortir, c'est le docteur Muriel Salmona qui l'a réalisée qui montre que pour 40% des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage, il y avait des cas où c'était la femme qui était responsable, par exemple, si elle s'habillait trop court, si elle sortait à un mauvais moment, si elle était trop jeune, elle allait n'importe où, etc. Et ça, c'est très grave. Parce que pour beaucoup de personnes, y compris en France encore aujourd'hui, une femme qui dit non, c'est peut-être qu'elle veut dire oui. Et donc, on n'entend pas le non. Et donc, tout ça, effectivement, ça s'intègre dans la culture du viol. Mais aussi, la culture du viol, c'est le fait que, concrètement, on a considéré pendant des siècles que la femme n'était rien d'autre qu'un butin de guerre. Donc, que la femme est achetée. Un exemple très intéressant là aussi, c'est par rapport à la Tunisie. La Tunisie est très avancée en termes de droits des femmes. Les femmes ont obtenu le droit à la contraception et à l'avortement en 73, c'est-à-dire avant les femmes en France. Néanmoins...
Effectivement, en France, c'était 75.
Voilà. Et, non, et néanmoins, en Tunisie, si c'est une femme célibataire qui veut se faire avorter, tout d'un coup, on va lui dire, ben non, il faudrait l'autorisation du père, ce qui n'est pas dans la loi, mais c'est pour dire... C'est là où on voit comment les habitudes, la culture, etc., de la possession des femmes sont ancrées et sont difficiles à combattre.
Viol, violence, meurtre, mutilation sexuelle aussi, clitoridectomie, excision, infibulation, on connaît ces termes, ces tortures, souvent pratiquées au nom de principes religieux. Et puis, il y a un homme, le docteur Mukwege, qui a porté à l'attention du monde entier la pratique des mutilations sexuelles perpétrées dans les zones de guerre, qui sont une arme, une stratégie. On parle de femmes de tout âge, de la fillette à la grand-mère, mutilées à l'aide de tessons de bouteilles, à l'aide de canons d'un fusil, entre autres barbaries. Un documentaire est sorti le 17 février dernier à propos du combat du docteur Mukwege. Son titre, il est évocateur, « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate ».
Quand on parle des mutilations génitales féminines, effectivement, on est dans les questions d'excision et là, on est sur le fait de posséder la femme. C'est peut-être un des domaines où, malgré des mouvements de va-et-vient, on enregistre quand même des avancées notoires. Oui. Les chiffres qui étaient avancés précédemment, c'était par exemple en Égypte assez généralisé, 90%. Les derniers chiffres de l'OMS, bon, qui datent de 2008, mais montrent quand même que le pourcentage de jeunes filles qui ont été excisées diminue, et notamment parce que maintenant c'est interdit, même si on constate que 50% d'entre elles le seraient, tout simplement parce que ça va être fait dans des cliniques privées, etc. Et c'est le poids de la culture. C'est pas une question de religion, c'est vraiment parce que souvent on a social islamique, mais c'est pré-islamique, et c'est des questions culturelles qui sont très en lien avec notamment la vallée du Nil, à la période pharaonique. On a vu aussi dans l'Afrique subsaharienne comment on faisait évoluer justement et régresser ces pratiques. C'est pas évident. Hein. Burkina Faso, par exemple, où c'est également interdit, ça c'est une grande victoire. Bien, les familles, souvent les plus pauvres et les plus illettrées, vont traverser la frontière pour aller dans les pays voisins pour faire exiger leurs filles. Et même si le gouvernement en place essaye de contrôler cela, c'est pas toujours évident. Dans le cadre de la guerre, C'est moins dans des pratiques rituelles et culturelles, mais c'est là vraiment les violences sexuelles, les mutilations, détruire les femmes, c'est détruire la société. C'est-à-dire que c'est les empêcher d'avoir des enfants. C'est les empêcher de continuer à procréer pour faire assurer la continuité d'une ethnie. Et on le voit en Bosnie, par exemple, il y avait les viols qui étaient utilisés justement pour que, au contraire, elles portent un enfant, notamment serbe. Dans d'autres pays, en RDC, on voit beaucoup cette destruction des femmes. Et c'est dramatique, parce que là encore, les séquelles de ces femmes, et le documentaire sur le docteur Mukwege et l'homme qui répare les femmes est assez... est admirable et instructif. C'est le docteur qui est admirable, je dirais. Mais parce qu'il montre bien, à la fois, c'est violer une femme, la blesser, la mutiler, ce n'est pas uniquement une douleur physique. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été reconnu comme une forme de torture, c'est que ça détruit aussi psychologiquement. Quand vous pratiquez ce type de violence sexuelle, c'est l'identité même de la personne qui est remise en cause, et à travers cela, donc, c'est la destruction de sa personnalité, et c'est derrière la destruction de la cellule familiale et de la société.
Alors il y a ce documentaire et puis il y a une pièce de théâtre aussi, Femmes en danger, mise en scène et jouée par Marie Ruggieri les lundis et mardis à 20h. C'est au théâtre de l'Essayonne. Le spectacle, il alterne théâtre et musique, il raconte des bribes de vie de femmes qui sont victimes de violences, incestes, violences conjugales, viols. L'idée de ce projet, elle est ancienne, elle remonte à 2004. Et Amnesty International n'y est pas étrangère, puisque c'est en partie une incitation d'Amnesty International Langres qui a fait germer cette idée dans la tête de Marie Ruggieri, qui a pris son temps pour faire un spectacle qui est fort. Vous êtes fiers à Amnesty International de faire émerger comme ça des projets qui sont des beaux projets, des projets forts?
Faire émerger ce type de projet est vraiment important, parce qu'au-delà de la parole que nous pouvons porter, nous, des rapports, des études, des statistiques, eh bien, il est important aussi que l'ensemble de la société s'empare de ces faits et les traduisent pour les communiquer à leur façon. C'est comme ça que nous allons toucher le plus grand nombre. Et c'est absolument essentiel parce que finalement, c'est vrai que bon, nous, on nous écoute, mais ce genre justement de spectacle, si je puis dire, hein, comme certains films, des livres, des documentaires, permettent aussi de rentrer plus en amont sur la personne elle-même et ce qu'elle ressent et son vécu. Et c'est absolument essentiel, parce que sinon, on reste dans l'abstraction et dans ce qu'on voit très souvent, on nous dit « oui, mais c'est pas chez nous ». Or, le fait de montrer que c'est aussi ici, que c'est un combat que nous devons tous mener, c'est majeur.
Absolument essentiel, c'est le titre de cette émission et c'est aussi donc le qualificatif pour cette pièce « Femmes en danger » qui se joue donc les mardis et les lundis à 20h au Théâtre de l'Essaillotte dans le 4e arrondissement de Paris. Un chiffre pour continuer, 15. C'est le nombre de femmes qui sont mortes depuis le début de cette interview, des suites d'une complication, d'une grossesse ou d'un accouchement. Parce qu'on a parlé des violences infligées par les hommes aux femmes, mais il y a cette question de la mortalité maternelle. Plus de 300 000 femmes meurent chaque année dans le monde de ces complications, soit une femme toutes les 90 secondes. Alors ça paraît impossible dans un monde où la science progresse, la médecine est en constante évolution, et pourtant c'est un fait. Comment on fait pour changer ça ?
Alors déjà, il faut bien voir que si c'est un fait, c'est parce que encore, pour beaucoup, la vie d'une femme n'a pas une grande valeur. Et qu'une femme qui meurt, on la remplace par une autre. Et ça c'est la base même. Hein. C'est pourquoi on va dépenser de l'argent pour sauver la vie d'une femme. C'est dur ce que je dis, mais c'est quand même très en lien avec cela. Nous avons mené de nombreuses campagnes dans différents pays. Et justement, là, on est très, très heureux parce qu'au Burkina Faso, avec la campagne que nous menons depuis plusieurs années maintenant et qui était un des pays, justement, où la mortalité maternelle était très élevée, eh bien, ça y est, le nouveau gouvernement qui a été élu tout à fait récemment et qui entre en place a confirmé qu'il allait donner la gratuité des soins et prendre en charge toutes les femmes. Parce que le problème, c'est le suivi. D'accord. C'est par des structures de santé. Il faut voir que dans de très nombreux pays, les femmes sont éloignées, elles vivent à la campagne, les moyens de communication sont faibles, etc. Et donc, de ce fait, quand elles arrivent à la ville, quand elles arrivent à l'hôpital, si elles y arrivent, parce que les routes sont coupées ou autres, eh bien, c'est trop tard. Alors qu'il suffit, là encore, d'avoir des gens qui sont formés, d'avoir des centres hospitaliers. Et c'est là aussi où on voit l'impact des politiques économiques mises au niveau mondial. Et très souvent, on dit, oui, mais ça coûte cher. Mais qu'est-ce qui coûte cher ? C'est le fait de mettre en place des dispensaires, de rapprocher les structures médicalisées qui vont pouvoir prendre en charge, que ce soit les femmes enceintes, mais aussi les enfants en bas âge, les accouchements, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, ou c'est ça qui coûte cher, ou c'est de ne rien faire qui coûte cher. Et quand on voit justement l'impact sur la société, l'impact sur la famille, là encore une fois de plus, l'impact sur l'organisation, eh bien, on se trompe de combat, et je dirais même de ligne de dépenses.
Alors, pour lutter justement contre les violences faites aux femmes, pour lutter contre les discriminations aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, Geneviève Garrigos, à part porter le 8 mars un petit ruban blanc ?
C'est déjà regarder soi-même le comportement que l'on peut avoir et le regard que l'on porte sur les femmes. Et y compris au niveau des femmes. Parce que très souvent, les femmes sont elles-mêmes très dures avec leurs sœurs. Les psychiatres, d'ailleurs, appellent ça la colonisation des esprits par cette culture de la domination et du viol. Et j'entends très bien ce qui est dit, c'est-à-dire que, finalement, c'est la faute des femmes. Si les femmes sortent dans l'espace public, elles se font violer, c'est leur faute. Si elles prennent la parole, elles se font agresser sur Internet, sur Twitter, etc., c'est de leur faute. Si elles s'habillent comme ça, c'est de leur faute. Donc ça aussi, les femmes doivent le combattre, on doit combattre. De même qu'on a combattu justement les propos racistes, parce qu'on a considéré qu'ils étaient une atteinte à la personne. Il faut bien comprendre que il faut combattre les propos sexistes. Et si aujourd'hui on ne peut pas admettre que quelqu'un frappe une personne parce qu'elle est noire, quel que soit le fait qu'elle ait fait, l'acte qu'elle ait commis, bah c'est pareil pour une femme. C'est pas parce qu'elle a mis trop de sel ou elle a pris une jupe trop courte qu'on peut la battre.
Deux questions pour finir, leur formulation est simple, la réponse peut-être moins. Pour reprendre le titre de cette émission, qu'est-ce qui est absolument essentiel pour les femmes en 2016 ?
L'égalité. Tant que les femmes, d'accord, continueront à être absentes de l'espace public, elles seront si peu représentées dans les instances que sont l'Assemblée nationale, le Sénat, au gouvernement, partout, au niveau de la télévision, tant que leur représentation qu'on a d'elle sera uniquement liée à la famille, à la mère, etc., tant qu'elles seront vues comme des objets sexuels, les femmes continueront à subir. Et le combat le plus important, c'est celui-là, qu'on soit, parce que moi je suis une femme et c'est ma revendication aussi, pourquoi considérer que les personnes sont différentes en fonction de leur sexe biologique ? On n'a pas le même cerveau ?
Et dans la vie, Geneviève Garrigos, qu'est-ce qui est absolument essentiel ?
C'est-à-dire ?
C'est une question. Qu'est-ce que vous trouvez absolument essentiel dans votre vie ?
Ah ! Se battre. Excusez-moi, je n'avais pas compris la question. Oui, ce qui est essentiel, c'est de ne pas accepter. C'est de ne pas se dire c'est normal. Plus nous serons à nous battre, hommes et femmes, parce que le combat pour l'égalité homme-femme, il est pour les deux, d'accord ? Et nous y gagnerons tous, là aussi, parce que ça fera reculer la violence d'une façon générale. Mais il ne faut... C'est difficile. C'est vrai qu'il faut parfois aller contre son environnement, son cercle d'amis, etc. Mais il ne faut plus se taire. Être féministe, ce n'est pas une honte. C'est un combat, et c'est un combat qui est d'une très grande dignité et une très grande importance. Et donc moi, j'attends qu'il y ait beaucoup plus d'hommes féministes qui nous rejoignent, qui rejoignent les femmes dans ce combat.
Et ça rejoint exactement ce que disaient mes invités de la semaine dernière, le collectif Georgette Sand. Et je voulais que cette émission fasse une sorte de diptyque pour parler du droit des femmes. Merci, Geneviève Garrigos.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission. Merci pour votre écoute fidèle. Merci à Aurélie Châtelard qui a organisé cette rencontre. Merci aussi à Léonard pour son accueil. La semaine prochaine, nous changeons, mais alors complètement de sujet, éclectisme quand tu nous tiens, puisque je vais vous faire découvrir un chanteur qui sort son premier album, Intérieure Nuit. Il s'agit de Marvin Juno et c'est un coup de cœur, on peut le dire, un coup de cœur musical que je vous ferai partager la semaine prochaine. Mais d'ici là, vous connaissez la formule. Surtout, n'oubliez pas l'essentiel.